Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné sous sa forme Extra Ball et une nouvelle fois réuni en public au Club de l'Étoile à Paris pour une nouvelle séance de projection. Cette semaine, on va regarder AI de Steven Spielberg et on va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial AI et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Rafik, quelque chose me dit qu'on va peut-être parler aussi un petit peu de Stanley Kubrick.
Je vois pas ce qui te fait dire ça, mais effectivement, oui,
il y a
un vague rapport, et effectivement un vague rapport qui nous porte sur à peu près une vingtaine d'années, puisque donc AI est un projet que Kubrick a développé pendant très très longtemps. On a entendu parler pour la première fois, nous, à notre petit niveau de nerd, de AI après la sortie de Jurassic Park donc en 93 où tout d'un coup James Cameron et Kubrick ont chacun annoncé un projet qui tenterait de pousser un petit peu le cinéma encore un peu plus loin que ce que Jurassic Park avait amené et avec l'idée de créer un être humain en image de synthèse donc artificielle et donc c'est la première fois où on a entendu parler à la fois d'Avatar qui était donc déjà en cours d'écriture à l'époque, et AI. Cependant, ce qu'on a appris encore plus tard, c'est l'implication que Spielberg avait sur le projet, puisque donc Kubrick et Spielberg se fréquentaient dès les années 80, en secret. Et il valait mieux que ce soit secret, parce que je pense que la critique internationale n'aurait pas supporté un tel choc,
non.
Puisqu'elle avait tellement l'habitude de prendre l'un pour taper sur l'autre, que d'apprendre que c'était les meilleurs amis du monde aurait vraiment remis en cause beaucoup de dogmes. Et en fait, de temps en temps, Kubrick aimait bien demander l'avis de Spielberg sur certaines choses, et sur un film comme AI, il a poussé le bouchon jusqu'à exiger que Spielberg ait dans sa chambre un fax, une ligne secrète de fax où il pouvait lui envoyer dessins de pré-prod, etc., auxquels Spielberg pouvait... Bon, bref. Et la femme de Spielberg détestait cette machine parce que, évidemment, avec le décalage horaire, c'était
oui,
la nuit que le fax,
arrivait
et que Spielberg se levait en robe de chambre pour aller choper les trucs. Donc ça, on ne sait pas très bien combien d'années ça a duré, mais on est encore au milieu des années 90. La technologie n'étant évidemment pas au point, le projet est sans cesse reporté. Néanmoins, connaissant Kubrick, on sait qu'il y a eu un travail phénoménal qui a été abattu. Et à la mort tragique de Kubrick, en fait, c'est Christiane, sa femme, Christiane Kubrick, et Yann Arlan, son beau-frère, qui ont demandé à Spielberg de reprendre la main.
Projet.
Spielberg, au début, s'est complètement dégonflé parce qu'il se sentait absolument pas le droit moral de faire un film à la place du maître. Et il a vraiment fallu l'insistance de Yann Arlan, qui était convaincu qu'il y avait que lui pour le faire, à la hauteur de ce que Kubrick aurait souhaité, pour que le film puisse se faire. Sachant que Kubrick avait déjà, de son vivant, plusieurs fois fait remarquer à Christiane ou à Yann Arlan que, à son sens, Spielberg était capable de choses dont lui n'était pas capable. Il admirait Spielberg pour sa capacité à atteindre le cœur des spectateurs. Et Kubrick n'a jamais cherché que ça, en fait. Il a vraiment cherché toujours à parler au public. Il se trouve que ses films sont un peu hermétiques pour pas mal de gens et font un peu peur, etc. Mais lui, son but, c'était quand même d'aller vers le public. Et il admirait Spielberg pour cette capacité-là. C'est pour ça qu'il avait laissé tomber son projet Ariane Papers, qui se passait durant l'Holocauste, considérant que seul Spielberg pouvait faire un film sur un tel sujet. Donc, quand Spielberg finit par entamer Artificial Intelligence, il le fait donc avec tout ce travail qui a été réalisé au préalable. Et il y a aussi un aspect du film qui lui est très proche, qui est la persistance du mythe de Pinocchio. Je parle de mythe, même si c'est un conte de fées, mais je vais expliquer pourquoi. considérant que Spielberg l'a toujours, a toujours considéré Pinocchio comme, comme quelque chose de fondamental dans sa propre carrière, et c'est une des raisons pour lesquelles il y avait déjà la chanson de Pinocchio dans, dans Rencontre du troisième type. C'est quelque chose qui lui est très intime. Hein. Donc le film que vous allez voir, qui traite, comme son titre l'indique, d'intelligence artificielle, a recours à la fois au mythe de Pinocchio, mais aussi, dans la grande tradition kubrickienne, une relecture assez savante de l'Ancien Testament. Alors, ça n'a pas vraiment été remarqué, j'ai l'impression, à la sortie du film, et on y viendra là,
oui,
à
la sortie catastrophique du film. Toute une épopée à elle-même, voilà. En elle-même.
Mais vous allez voir dans le film des séquences qui font... référence à la Genèse, c'est-à-dire la création par le Logos, par le Verbe. Vous allez avoir des séquences sur le fruit défendu, sur la chute, l'abandon de son, par son créateur, sur une terre hostile. Vous allez avoir des références à Abel et Caïn, vous allez avoir des références donc au déluge, qui est constamment rappelé dans le film comme une possibilité qui attend l'humanité, à Sodome et Gomorre, avec toutes les séquences qui se passent à Rouge City, etc. Alors pourquoi, c'est quoi le rapport entre Pinocchio et les chapitres de l'Ancien Testament ? Tout simplement, l'Ancien Testament, on peut s'amuser à considérer que c'est un texte qui a été écrit par quelqu'un très très inspiré en 500 avant Jésus-Christ, il y a des gens qui pensent ça, ou bien considérer que c'est la résultante d'une tradition orale qui remonte dans la nuit des temps.
C'est un best-of de la tradition orale.
Un best-of, grosso modo, des récits de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité se raconte à travers ces récits-là depuis des temps immémoriaux, oui, et bien avant l'invention de l'écriture. Et qu'en fait, ce qui est encapsulé dans ces textes, pour certains très courts, c'est une somme d'expériences humaines. Un conférencier avait fait cette remarque que je trouvais très judicieuse. Il dit, le texte d'Abel et Caïn, c'est un texte qui fait à peine deux feuillets, qui est très très court, et il disait, il y a là-dedans l'intégralité de la carrière de Dostoïevski, pardon. et quelque part, il a raison. Ce sont des récits qui ont été affinés par des sommes et des sommes et des sommes et des sommes d'expériences humaines. Et Haï, d'une certaine façon, ne cherche pas tant à raconter à un futur probable de développement de l'intelligence artificielle, qu'à comprendre qu'est-ce qui a constitué l'intelligence humaine. C'est-à-dire que à quel moment on est passé de l'animal à l'être conscient et moral. Et en fait, on y est passé par ces étapes qui sont résumées dans ces mythes. Et évidemment, pour ce Pinocchio, ne parle pas d'autre chose, oui, que de la constitution d'un être, en fait, de la naissance d'une âme et d'une conscience morale. Donc, on voit, à ce que je suis en train de dire là, qu'on a affaire à un projet qui, sur un plan, on va dire, strictement intellectuel, a des ambitions manifestes, ce qui est, pour le public et pour la critique, normal et attendu de la part de quelqu'un comme Kubrick, mais évidemment,
totalement
pas du tout
anormal,
attendu de la part d'un Spielberg. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement Spielberg va tenter de s'approprier un projet qui n'est pas le sien, qui a été au départ vraiment conçu pour quelqu'un d'autre, et lui, sa façon de procéder, c'est de, non pas de diluer, mais de faire passer par l'émotion les mécanismes qui peuvent mener le spectateur à s'éveiller à une idée. Et là où Kubrick avait plutôt tendance à lui imposer le symbole et à, oui, lui dire, en gros, démerde-toi avec ça,
avec
ça fait l'effort
pur,
d'aller,
voilà,
vers le truc. Et c'est là où, peut-être où le film va être victime du nom de son réalisateur, c'est que Haï va vraiment, être accueilli comme basiquement E.T. contre les robots, quoi. La critique de l'époque n'a fait absolument aucun effort pour, oui, regarder ce film ou le questionner. Déjà, elle a commencé par considérer que c'était un film pour enfants parce que ça mettait en scène un enfant, ce qui est la chose la plus stupide au monde. Moi, c'est quelque chose que je ne montrerai absolument pas à mon gamin avant qu'il ait au moins 15 ans. C'est un des films les plus dépressifs que j'ai pu voir, et pas seulement dans la carrière de Spielberg, mais un des films les plus dépressifs tout court. Si on commence à rentrer dans le film, on s'aperçoit que les enjeux qui le travaillent et qui ont trait à notre humanité sont d'un pessimisme extrêmement alarmant, quoi. Il est en train de nous dire, mais peut-être que votre quête n'a absolument aucun sens en dehors de celui que vous lui donnez, quoi. Et ça, c'est terrible comme message Spielberg, parce que c'est Spielberg qui arrive à rendre ça digeste, hein, mais c'est super dur. Et il y a un seul pays, alors je ne sais pas si c'est la Suède ou la Finlande, il faudra que je vérifie. J'ai l'impression qu'il y a un seul pays où ils ont compris ce qu'était le film, et il a été interdit au moins de 16 ans. là-bas. Et ça a fait rire tout le monde à l'époque. Ils sont cons, ils ont interdit un film pour enfants, ils l'ont interdit au moins de 16 ans. Non, ils ont juste regardé le film, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment le film qui a vraiment révélé le malentendu persistant qui poursuivait Spielberg depuis les débuts de sa carrière. Spielberg est un des cinéastes les plus importants de l'histoire du cinéma. Kubrick en était parfaitement conscient et l'estimait pour cette raison et le reconnaissait pour cette raison-là. La critique et une partie du public n'ont toujours pas compris à quel point Spielberg c'était ça. C'était là-haut, tout là-haut au niveau des étoiles. Donc, Spielberg a fait tellement d'efforts pour tenter de s'approprier ce matériau sans jamais trahir les intentions du maître. C'est-à-dire qu'il a dû, il a gardé les symboles, ils sont là, mais ils sont diffusés. Il y en a un de symboles que je trouve terrible parce qu'il annonce la façon avec laquelle le film va être mécompris. Au tout début du film, vous verrez dans la scène à l'hôpital le père discuter avec un médecin et sur les murs sont dessinées des images qui sont tirées de différents contes de fées et il y a une insistance sur une image en particulier qui vient du conte d'Andersen, les habits neufs du grand-duc, qui est un conte moins connu que d'autres, mais dont le thème est l'incapacité à voir les choses, en fait, qui raconte vraiment comment les gens sont aveuglés par leurs propres présupposés et ne voient pas l'évidence. Alors, en l'occurrence, que le grand-duc est nu, parce qu'il se balade à poil au milieu de la foule, et il y a juste un enfant qui remarque qu'il est nu, en fait. Ils sont tous en train de se persuader qu'il a la plus belle robe du monde. Bref, parce que leur conditionnement au regard fait qu'ils voient ça, quoi. Et j'ai trouvé ça dingue que ce film, qui allait être à ce point pas vu, nous invite à nous intéresser aux habits neufs du grand-duc dès le début, quoi. Je pourrais m'arrêter sur chaque séquence tellement elle est riche de symbolique. Voilà, tenter de vous expliquer pourquoi on voit au début l'enfant naturel de ce couple qui est enfermé dans la glace et pourquoi David à son tour sera enfermé dans une même capsule glacée vers la fin. Enfin, tous les rapports qu'il y a entre les deux. Pourquoi est-ce qu'il utilise le même plan de rétroviseur qu'on avait déjà dans Jurassic Park et dans Duel pour filmer David lorsqu'il est abandonné, etc. Enfin, Spielberg s'en est servi vraiment comme un film qui regarde sa propre carrière, sa propre façon de faire du cinéma et la propre carrière de Kubrick, tout en faisant encore une fois un film qui raconte toutes ces choses que j'ai tenté très maladroitement de vous exposer. Non, mais c'est un film extrêmement dense. À l'époque, j'avais dit en deux lignes que c'était une œuvre qui grandira avec le temps. Je parlais pas tant pour les autres que pour moi, en fait, parce que moi-même, je savais quand je l'ai découvert que j'avais compris ça et qu'au fil des visionnages j'allais vraiment commencer à voir toute l'étendue de ce que ce film nous propose, mais en gros ce film tente de raconter l'histoire de la conscience de l'humanité. David est actionné, vous le verrez, par plusieurs mots clés dont Socrate. Pourquoi? Tout simplement parce que Socrate a été une date dans l'histoire du développement de la conscience humaine, puisque, alors, je suis désolé pour le terme, ça fait un peu pédant de dire ça, il a révélé que l'intelligence était l'intériorité qui se révèle à elle-même. Bon, ça, si vous voulez, la citation.
Qu'est-ce qu'il est cultivé.
Voilà. Mais voilà, ça fait chic de dire ça en plein podcast Nos Ciné.
Incroyable.
Donc, quand vous voyez que David découvrir l'intérieur du visage d'un modèle de David et tenter de s'y mettre, on est vraiment dans cette configuration socratique à fond, quoi. Quand vous voyez David au fond des océans, devant la statue de la fée bleue, en train de la prier, et que la voix off vous explique qu'elle l'a priée pendant 2000 ans, je peux vous le révéler comme ça, hein, c'est peut-être choquant, mais en réalité, dans l'humanité, il y a eu des gens qui se sont mis devant une statue d'une femme comme ça, virginale, pour la prier pendant 2000 ans aussi. On a vraiment l'histoire de notre propre conscience, et donc du coup de nos religions, de nos idéologies, etc., qui est mise en jeu là-dedans, mais dans une vision extrêmement pessimiste de quête de quelque chose d'inutile, en fait, et en l'occurrence la quête de son rapport à une mère idéalisée qui n'existe plus. Enfin, en gros, c'est ça, la quête de David, quoi. Il y a une séquence qui est extrêmement casse-gueule à l'époque, qui m'avait fasciné, qui était celle du Dr. No, avec le personnage joué par Robin Williams. Enfin, c'est Robin Williams qui donne sa voix au Dr. No. Que je pense pas mal de spectateurs ont été gênés par cette scène parce qu'ils la trouvent stupide, parce qu'en gros, t'as ces deux androïdes qui sont en train de poser des questions idiotes, entre guillemets, au Dr. No, et en fait, elles sont pas idiotes, ces questions. C'est une séquence qui tente de nous faire comprendre comment une machine réfléchit, et donc de nous donner la distance qui nous sépare d'une intelligence artificielle dans l'accession ou non à l'intuition. Parce qu'en fait, le problème de ces deux personnages, c'est qu'ils n'ont pas l'intuition qu'a un humain. Mais ils ont accès, par contre, à une logique qui est beaucoup plus poussée que la nôtre. En réalité, cette séquence, elle est très complexe dans ce qu'elle raconte, mais pas au niveau superficiel, quoi. Et je ne connais qu'un autre exemple de scène qui est tenté de faire la même chose dans ces mêmes années-là, c'est la scène de l'architecte de Matrix Reloaded, qui repose sur le même principe, c'est-à-dire que c'est, pour moi, une scène qui est plus compréhensible pour une machine que pour un humain. Et je l'ai vu en salle à chaque fois que j'ai vu Matrix Reloaded, tout le monde est sur sa chaise en train de se pencher en avant, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Alors qu'une machine trouverait ça, mais c'est évident ce qu'il est en train de dire. C'est d'une logique pure. Ben oui, mais on n'est pas des êtres de logique pure, on est des êtres humains. Et notre façon même de penser, de voir le monde et de le conscientiser, elle passe par tout un mécanisme d'intuition et d'analogie que les machines n'ont pas. Donc voilà, c'est quand même un film qui jongle avec tous ces thèmes-là. Et voilà, on pourrait le faire image par image. Voilà, ça nous donnerait un podcast sans fin. C'est un film passionnant. Mais je pense que ce conte qu'il y a au début, donc les habits neufs du Grand-Duc, encore une fois, celui qui voit que le Grand-Duc est nu, c'est un enfant. Donc d'une certaine façon, il nous invite à regarder le film de la façon la plus innocente possible. Oui. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée de regarder AI, c'est de le regarder d'une certaine façon comme Spielberg a voulu qu'on le regarde. Et quelque part, peut-être même Kubrick, qui aurait souhaité pouvoir faire un vrai conte à la Pinocchio. Donc regardez-le comme en étant un enfant. Et peut-être que contrairement à un spectateur sur trois à l'époque, vous ne verrez pas apparaître ces fichus aliens qui ont obsédé les spectateurs, parce que tout le monde a vu des aliens dans ce film. Oui. Donc c'est un film qui s'appelle Intelligence Artificielle. Donc voilà, le film débute par l'image d'un être filiforme qui est le logo d'une entreprise. Et vous verrez, quand David arrive chez ses parents, la toute première image qu'on a de David, c'est une image où il est aussi également filiforme. Oui. Et il les effraie pour ça. Et cette image filiforme, elle est en fait un idéal des machines. Et lorsque vous verrez un personnage qui ressemble à ça dans le film, vous saurez que c'est les machines qui ont fini par atteindre leur idéal. Mais à l'époque, donc, des spectateurs étaient convaincus de regarder donc l'invasion des aliens de la planète Sglurb. Et on va leur dire non, ça s'appelle intelligence artificielle, quoi. Mais c'est vraiment le malentendu qui a concouru à ce film, a révélé beaucoup de choses sur le rapport de Spielberg à la critique et à une partie de son public, et a eu des conséquences. Moi, à l'époque, j'avais interviewé la productrice Bonnie Curtis. Bon, déjà, qui m'a confirmé le travail obsessionnel qu'avait été ce film-là. Hein. Elle me disait, en plus, elle était enceinte, la pauvre, à l'époque où le film se faisait. Elle me disait qu'il faut pouvoir tenir le coup quand Steven vous appelle à 3h du matin pour vous demander un abat-jour avec une couleur extrêmement spécifique. parce que vous vous retrouvez dans le 4x4 à traverser tous les états du pays à trouver un magasin
pour
ouvert.
Un abat-jour. Voilà,
de cette couleur-là, spécifiquement. Mais ça donnait une idée donc, de l'obsession du personnage, qui dormait pas la nuit, qui bossait là-dessus, mais aussi de la précision de sa mise en scène. Oui. Parce que, évidemment, tout le monde, enfin, tous ceux qui s'intéressent au cinéma savent que le mythe autour de Kubrick, c'est que c'était le réalisateur le plus maniaque de tous les temps, qu'il
n'avait
pas un seul grain de riz dans le plan qui n'avait pas été précisément calculé. Donc Spielberg se retrouve aussi à devoir se mettre à ce niveau-là. Et c'est pas quelqu'un de maniaco-dépressif comme l'était Kubrick. Donc il a été immergé là-dedans. Et quand il a vu, en définitive, que ce que le public, une partie du public et de la critique avaient reçu, c'était E.T. contre les robots, ça a été un déchirement pour lui.
Alors ressent quelques années plus tard.
Exactement. Bonnie Curtis, l'interview était un peu délicate parce que j'essayais de lui faire dire les mots et elle ne voulait pas les dire. Oui. Mais bon, alors, en réalité, elle me parlait de dépression nerveuse. Hein. Oui. Il n'était pas venu faire la promo, etc. Il était super mal. Et effectivement, dans les films suivants, qu'est-ce qu'on a vu? Pour la première fois de sa carrière, il a commencé à faire des films où, en gros, il disait aux spectateurs « démerde-toi ». Ce qui n'est en fait jamais arrivé, c'est toujours quelqu'un qui allait vers les gens. Mais dès Minority Report, La Guerre du Monde, etc., il y a vraiment des films, Munich, il a plus peur aujourd'hui de ne pas être compris. Oui. Avant, c'était une obsession. Il fallait que tout le monde comprenne ce qu'il faisait. À partir d'ahi, c'est s'ils peuvent pas comprendre, tant pis, quoi, je vais faire mon truc. Donc ça l'a fait grandir, mais d'une façon assez douloureuse. Donc voilà le rôle que ce film aura joué dans dans sa carrière.
Et il aura remis des décennies avant de, on va dire, réaffirmer, recréer haut et fort son affiliation à Kubrick. Oui, ça a attendu, oui, Ready Player One, oui, où il s'est remis dans les pas de Shining.
En sale gosse.
En sale gosse.
En sale gosse. Ouais, avec ce côté.
Avec ce côté doigt d'honneur.
Je ne le respecte pas, voilà, parce que je sais que je ne peux pas le respecter. Ouais. Ouais, tout à fait. Ce qui n'était effectivement pas du tout le cas quand il a fait AI. Il l'a fait en état de flip, quoi. Du genre, je travaille dans l'œuvre, dans les, oui, pas du grand maître, quoi. J'ose même pas imaginer comment on peut vivre un truc pareil. Quoi. Donc voilà, c'est un film important dans la carrière de Spielberg, c'est un film important dans l'histoire du cinéma, tout simplement. Il est aussi peut-être effectivement arrivé à une époque un peu délicate, puisque donc septembre 2001, on va dire qu'il s'est passé quelques trucs, oui, dans le monde qu'on fait, bon, il y avait un peu un basculement de beaucoup de choses qui ont été mises en jeu, que, comment dire, que l'innocence de David à vouloir nous parler d'un futur probable qui n'était pas des plus optimistes, ben c'était peut-être pas dans la ligne de mire. On a préféré Fast and Furious. Donc voilà, je vous invite ce soir à découvrir un film qui est vraiment un film de Spielberg et Kubrick. On peut pas détacher les deux, c'est leur alliance. Un film que peut-être vous ne comprendrez pas dans sa totalité, c'est pas la peine d'aller chercher au fin fond de l'image, tel détail, etc. Ça viendra avec le temps. C'est un film qui peut s'apprécier de façon multiple. Et je pense que la façon la plus simple d'y pénétrer, c'est d'avoir les yeux d'un enfant pour voir petit à petit que le Grand-Duc est nu.
Magnifique. Rafik, bon, je propose qu'on le regarde, le film. Maintenant, on est prêt. Je pense qu'on est à 100%. Merci beaucoup.
Merci.
Rafik, merci au Club de l'Étoile et au public, évidemment, pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Puis on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.